pas plus haut que le bord.
Mais c'est comme... C'est clair. Ça va aller très mal.
D'accord avec toi.
Et totalement...
Ah, c'est... Et là, j'assume.
Pas plus haut que le bord.
Voilà, tout va bien. Pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant une émission de Radio Mon Pays en direct et en public depuis le bar Le Petit London, les 2e et 4e mardi du mois de 20h à 21h. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté de l'humeur, des coups de gueule, de l'impertinence, de l'irrévérence, bref, de la subjectivité.
C'est comme...
Ce qu'il y a de bien avec les ministres de Sarko, c'est qu'ils font le buzz au moins une fois par semaine. Alors pas besoin de sortir les vieilles histoires des Pasqua, Chirac et consorts. Avec le gouvernement Fillon, on est bien servi. D'abord... Tout en délicatesse et avec un brin d'humour, il y a le coup de colère de Ramayade contre les scandaleux tarifs d'hôtels de nos chers fouteux à 589 € la nuitée. Scandaleux d'autant plus que le ridicule ne tuant pas la belle s'offrait aux frais de la République une non moins onéreuse suite à 667 €. Le ridicule ne tue pas, je vous le dis. Et puis il y a la Boutin, dont la mission s'élève à quelques 9 500 € par mois. Vu la qualité de ses prestations ministérielles à l'heure où elle officie encore au gouvernement, on peut s'attendre à un rapport sur les conséquences sociales de la mondialisation de très haut niveau. C'est vrai qu'en France, faut le dire, nous manquons de spécialistes sur la question. Dans la fine équipe gouvernementale, au moment même où notre omniprésident déclare la main sur le cœur, que c'en est fini avec les permis de construire distribués à l'envi, son secrétaire d'État à la coopération, Alain Joyandet, se fait agrandir illégalement sa modeste demeure sur les hauteurs de Saint-Tropez. La copée, ça a du bon avec les potes de l'UMP. Le tabac, c'est mauvais pour la santé, vous le savez. Mais cela n'empêche pas notre secrétaire d'État au Grand Paris, Christian Blanc, de s'offrir aux frais de l'État pour 12 000 € de cigares. Eh ben oui. Que l'on prenne la rigueur budgétaire, le gel des salaires des fonctionnaires jusqu'en 2013 et la suppression de 140 000 fonctionnaires en 2011, quoi de plus normal? Mais faire scandale pour quelques malheureux cigares, tout de même quel manque d'éducation. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Faut le dire, celle-là, elle est particulièrement croquignolesque. Je l'aime bien, quoi. Dans l'affaire Bettencourt, deuxième fortune française, je veux Florence Woerth, l'épouse d'Éric, ministre du Travail et ancien ministre du Budget. Là, on tient du lourd, du solide, du bien nauséabond. La dite Florence, suite aux révélations de Mediapart, vient de démissionner de son emploi de conseil des intérêts financiers de Liliane Bettencourt, laquelle a juste fraudé le fisc et planqué un peu de pognon en Suisse. Et le ministre a beau jeu de vouloir réduire le déficit des comptes publics. Et puis, comme il n'y a pas que les ministres pour nous amuser, il y a aussi nos champions, nos grands sportifs au grand cœur, nos insondables footballeurs. Je dois le confesser, jusqu'à ces derniers jours, le foot m'était absolument étranger, sauf lorsque l'un de ces grands intellectuels tentait de faire une phrase comportant un complément circonstanciel de lieu suivi d'un adjectif qualificatif. Là, j'écartais grand mes oreilles pour ne pas rater la future bonne blague à répéter à mes amis. Mais là, c'est au-delà de toute espérance. La tragique comédie, la bouffonnerie abyssale de ces derniers jours me ravit. Je sais, c'est facile de tirer sur l'ambulance, mais tant pis, je cède à la facilité. quand le nouvel opium du peuple montre enfin tout l'étendue de sa vulgarité, quand le président de la République lui-même et sa ministre des Sports entrent en scène, là, franchement, je m'étouffe de rire, tout le grand guignol atteint son apothéose. À quand un regain de lucidité quant aux prévisions mensongères sur les retraites ?
Pas plus haut que le bord.
Et pas plus haut que le bord, c'est ici la dernière de la saison au bar Le Petit London, avec de nombreux camarades, garçons et filles. D'abord, saluons Christelle. Christelle qui est depuis de nombreuses années maintenant notre technicienne attitrée. Christelle qu'on ne voit jamais, qui est dans l'ombre et pourtant si efficace aux manettes. Et chers auditeurs de Radio Montpellier, vous vous rendez compte qu'ici au Petit London, évidemment, il y a foule, comme chaque deuxième et quatrième mardi du mois, et c'est normal, hein, puisque c'est une émission unique, hein, sur la stratosphère radiophonique toulousaine, et peut-être mondiale d'ailleurs, soyons fous. Donc, dans l'ordre d'apparition, nous avons CSP, salut CSP.
Bonsoir.
Ensuite, Gwen.
Ouais,
Oui, Gwen.
Ça marche.
Gwen a toujours
censuré.
Peur. Non, t'es pas censuré.
Okay, merci.
Pourtant, tu dis des bêtises, mais on te censurera pas. Également Manu.
Bonsoir.
Salut Manu. Et Laurent.
Bonsoir.
Mais je n'oublierai pas Clémence qui sera aussi parmi nous. Et merci toujours à Yannick qui nous permet de réaliser cette modeste émission dans son bar, Le Petit London. Voilà. Voilà. Et je crois que CSP nous a préparé une petite
une introduction.
Une introduction.
Il a l'air énervé en tout cas.
Non.
Il a l'air comme d'habitude.
Il m'a dit la dernière fois, pour la dernière, il faut...
Oui, parce qu'en fait, dans pas très très longtemps, c'est un peu mon anniversaire. Alors, je me suis dit que pour la dernière de l'émission, je t'avais demandé très gentiment si je pouvais introduire ma chronique par une musique choisie de mon cru à moi.
Oui.
Et on avait négocié 60 secondes.
On avait dit exactement. Pas d'intimité dans l'émission, quoi.
Voilà, j'ai réussi à les avoir.
Allez, on va s'écouter ça.
Ça dure 2 minutes.
Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est comme morceau? C'est une reprise.
Donc, la sonate de Beethoven.
Presque.
Les dents,
c'est bien.
Oh, bravo.
Toi, t'as vu le film, là, non? Le film qui passe en ce moment, déjà.
Ah, les dents, de l'Universite?
Ouais.
Ah, oui, c'est Donc, on peut parler sur ta musique fétiche. C'est merveilleux.
C'est super intime, hein, ça.
C'est long, mais je n'ai pas qu'à
l'envie. C'est la meilleure intimité, en tout cas.
Ça y est, j'ai réussi.
Il est enfin notre CSP.
Ah, j'ai enfin fait passer de la bonne musique dans cette émission. Bon, ça, c'est fait.
Moins fort dans le micro, mon petit ami. Oui,
je commence.
Tu cries dans ton micro et c'est fini, là. On a arrêté la musique, là.
Ouais, mais je continue dans la foulée, en fait.
Oui.
Non, par ma chronique.
T'es en colère ?
Toujours.
Tout va bien.
Les mots sont des armes. Il est attristant de constater que cette lapalissade, seul l'ennemi en a pourtant saisi la pleine mesure. Lui sait et a compris, et depuis longtemps, que les mots n'étaient pas que des suites de consonnes et de voyelles, mais des outils de destruction et de construction. Les mots sont des armes, et au moment où nous parlons, seul l'ennemi le comprend et l'applique. Les mots sont des armes, parce que dans les sociétés occidentales, passées de cette modernité déjà obsolète à la société globale de l'information, où l'essentiel de l'économie s'est virtualisé, et où les symboles et l'immatériel sont devenus des réalités agissantes qui influencent les vies de millions de personnes, l'utilisation de mots et leur articulation voit leur pouvoir démultiplier et accélérer une échelle non seulement jamais vue, mais qui en est encore qu'à ses balbutiements.
Je pense qu'il y a un point là.
C'est du
respirons. On a découvert notre...
Les mots sont des armes.
Clément, c'est un slam, tu penses?
Oui.
Le travail de formatage effectué depuis des années porte pleinement ses fruits. La séparation est achevée entre la vie concrète du Pékin moyen et ce qu'il en pense dans son fort intérieur. C'est le but. Les conséquences sont séparées des causes et on vit dans l'exploitation en le sachant pertinemment, mais sans voir le lien avec une quelconque révolte possible. ce dont on parlait tout à l'heure, mon cher Gwen.
Pas d'aparté, pas d'aparté.
Les mots sont des armes et l'ennemi n'a pas nos pudeurs, comme cette farce d'apéro saucisson pinard. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Ah oui.
Non, pas moi.
Ça a été interdit quand même, hein.
Non, mais c'était
il y en a eu deux, partie. Il y en a eu deux comme ça, hein, qui ont été proposés.
Non, il y en avait un.
Ça a été proposé en fait par les filles.
Non, ça a été proposé, c'est une manipulation du bloc identitaire, qui est un mouvement d'extrême droite, qui a essayé de faire passer ça pour une contestation laïque, parce qu'ils voulaient faire un apéro à la Goutte d'Or, qui est un quartier essentiellement arabo-musulman.
Ouais.
Ça a été annulé au dernier moment et c'était prévu. C'était prévu. C'est, moi, je reste convaincu que jamais, à aucun moment donné, ils ont voulu faire cet apéro. Je suis sûr que jamais le moindre bout de saucisson n'a été acheté pour ce truc. Ouais. C'est pas avec se faire du buzz.
C'était pour faire parler, quoi.
Que ce soit interdit.
Ouais.
Et alors, peu importe. D'ailleurs, en plus, que ce soit pas déroulé, peu importe que rien de réel ne se soit passé. Sinon, bon, après, il y a eu un rassemblement bouffon de militants d'extrême droite qui n'était pas, c'est pas le vrai but de l'opération. Le but de l'opération, c'est que leurs mots à eux sont entrés dans le maximum de têtes et sans quasiment lever le cul de devant des ordinateurs.
Ouais,
créer fort. Quelque chose à
super
de...
fort, hein. T'as raison, CSP. C'est effectivement les fachos, ils arrivent à s'immiscer partout, quoi. Maintenant.
Ouais, mais eux, ils ont compris qu'à l'époque où nous vivons, les mots sont des armes.
Ouais. Les mots sont des armes.
Et les mots sont des armes, et les armes, c'est fait pour faire la guerre. Les mots sont des armes, et les armes, c'est fait pour faire du mal à l'ennemi.
Je le sens arriver là.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que notre camp n'est pas encore résolu à s'emparer de ses armes pour livrer la contre-offensive vis-à-vis de l'inlassable et cruelle guerre de classe que les dominants nous livrent sans répit.
Ah, c'est un gros mot, la guerre des classes. Comment ça, on utilise
non,
ça encore
la, non, c'est la réalité, Christophe. C'est vrai. Il y a des classes sociales qui sont en lutte et pour le moment, c'est plutôt la classe du haut qui est en lutte contre celle du bas qui ne fait rien pour se défendre.
Mais je pensais que c'était un vocabulaire obsolète, classe sociale, capitalisme.
Non, ça, c'est ce que les cons pensent.
Faut lire Ruffin. Voilà. Tu te rappelles de Ruffin, on en avait parlé,
hey.
Qui disait que le retour des classes.
Oui, bien sûr.
La différence, c'est que les progressistes n'utilisent pas les mots en tant qu'armes, ils les utilisent pour décrire et dénoncer, pour, entre guillemets, s'indigner et pour expliquer. On ne sort pas un rapport des mots vu comme outil pour, toujours entre guillemets, démonter le discours adverse ou pis, faire cette pesante et inefficace pédagogie dont nous sommes décidément friands de ne pas, au point de ne pas comprendre qu'elle n'atteint personne. Des mots outils, mais pas des mots armes. Ça se voit dans les tracts, dans les blogs, dans les discours, ça se ressent dans toute la production symbolique de notre camp, qui, s'il comprend qu'on est entré en phase de conflit, et c'est déjà pas mal, ne sait pas comment utiliser les armes mises à sa disposition, alors même, bon, filons la métaphore, que les arsenaux regorgent de munitions, comme si des soldats voulaient bien faire la guerre, mais pas avec des vraies balles.
C'est... Gwen, t'en penses quoi?
Bah, moi, je suis un peu d'accord sur le fond, pas sur la forme. Sur le fond.
C'est-à-dire,
non, mais sur l'idée qu'il existe des classes sociales, ça je suis complètement.
Oui, quand même.
Je suis. Enfin, je.
Pourtant,
c'est vrai,
on dit que c'est obsolète, hein, ce vocabulaire.
Non. Je pense qu'en effet, il y a tout un discours dominant qui actuellement nous essaie de nous convaincre qu'il n'existe pas de classe sociale, qu'il n'existe que des individus, qu'il n'existe pas de collectif.
Oui.
Et non, je pense que non. Je pense qu'il existe des réelles catégories sociales, mais même les sociologues le disent. Il n'y a pas de.
Oui, mais tu. C'est
rapport de force.
CSP nous explique quand même que les mots sont des armes et donc il faut faire la guerre et pas de la pédagogie.
Non, mais la pédagogie, ça sert à rien.
Moi, je pense plus, j'y crois plus à la guerre symbolique qu'à la guerre, heureusement.
Non, mais là, je parle de guerre politique.
Voilà. Moi, je pense qu'il faut l'ajouter, ça, comme dimension. Plutôt une guerre symbolique et politique.
Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas que ça devienne trop symbolique non plus. Il faut que ça s'inscrive un petit peu dans le concret. Parce que guerre symbolique, ça fait. On fait des colloques de bourdieusiens et tu vois, c'est vachement cool. Et on parle. Alors ensuite, moi je sais très bien, à gauche on est très fort pour parler. Toi, moi je connais des gens, c'est dans la sodomie de mouche, ils sont mais extrêmement forts. Hein, mais bon, arrivé à un moment donné, il faut comprendre que, et je rebondis sur ça, les mots sont des armes, et les armes ça sert à faire la guerre. Mais notre camp a des pudeurs de juvencelle quand il s'agit de comprendre pour de bon et de se décider enfin à faire la seule chose conséquente dans la situation actuelle, faire la guerre politique, totale. Politique, oui. Mais faire la guerre politique totale pour écraser la domination une bonne fois pour toutes avant que eux ne nous écrasent. Sauf que notre camp a peur que ça veut dire d'ennemis, d'affrontements. Notre camp a peur de quitter le débat pour gagner le conflit. Alors on entend parler de construire des alternatives, voire même de temps en temps on manifeste contre des dispositions qu'il faudrait ou on aurait voulu négocier ou encourager le lien social et autres projets collectifs. Voilà où on en est, et tout ça pour tenter de reculer devant l'inéluctable résumé en deux mots, c'est eux ou nous. Les mots sont des armes. Et si un ensemble collectif décide d'abandonner sa vision des mots-outils pour les penser comme mots-armes, une machine de guerre idéologique peut se mettre en place. L'idée fait son chemin, mais lentement. Trop de pudeur, trop de racination, trop de conservatisme, trop de peur de faire peur, trop de bonnes raisons morales qui nous consolent de nos défaites. On a perdu, mais parce qu'on est gentils. Mais des gentils avec des pistolets à bouchon, ça ne va pas bien loin. Les mots sont des armes et il faut nous en réemparer pour que définitivement notre gentillesse devienne impitoyable.
Merci. C'était CSP. CSP dans sa fulgurance.
C'est qui nous, c'est qui eux? Non, parce que tu dis les cons, les pas cons.
C'est ceux qui détiennent pour l'essentiel les moyens de production. Ce qu'on pourrait définir anciennement, comme je disais, dans le cadre obsolète, par la bourgeoisie, dont Sarkozy et sa clique sont les éminents représentants au pouvoir actuellement. Pourquoi?
Non, c'était pour savoir. Non,
je sais pas, je suis moi-même bourgeoise, donc c'est pour ça que je me demandais si dans quel camp j'étais.
Tu détiens des moyens de production.
Bon, c'est raté.
Tu détiens des moyens de production.
Ouais, de production intellectuelle.
Non, ça, c'est de la production symbolique. Moi, je parle de production matérielle avec des biens, du capital économique conséquent qui te place dans des tranches fiscales très nettement supérieures et que tu payes l'ISF.
Non, ça, je suis pas assez forte en tricot. Ouais, non, c'est
ça. Oui, quand même. Mais on parlait pas de tricot là. Hein. Là, il
non,
parle.
Mais c'est la chose que je produis, donc effectivement, je suis pas assez forte en tricot au point d'être productrice.
À ce moment-là, tu les délocalises en Asie.
Ah, je vais y penser.
Eh oui. On va. En tout cas, les mots sont des armes.
Et ça, ouais. Il va falloir le comprendre.
Moi, oui. Ça me fait penser, dans sa chronique, ça me fait penser, je reviens à Ruffin.
Oui. Oui.
Parce que c'est vrai que dans son bouquin, le titre c'était quoi déjà, le bouquin de Ruffin?
La guerre de classe.
La guerre de classe, ouais. C'est explicite. Mais il dit, c'est vrai que on a tendance à ne plus penser à la politique en termes de lutte sociale.
Oui.
Et c'est vrai que la politique, c'est des luttes. À partir du moment où tu fais de la politique, tu rentres en lutte.
Oui. Et d'ailleurs, ce jeudi 24, normalement, c'est une journée de lutte.
Voilà. Nombreux.
Hein, et pas une journée de promenade.
Voilà, et toutes les même en revanche, tous les grands événements politiques qui ont lieu dans le passé, ça a été des événements qui ont eu lieu à travers des luttes, mm-hmm. des luttes sociales. Et ce qu'il disait dans son bouquin, la thèse qu'il défendait, c'est qu'il disait qu'on est dans des sociétés maintenant très molles, où quand on fait de la politique, en effet, on a tendance à chercher le consensus, toujours le consensus, etc. Alors que non, enfin, il y a des intérêts de conflit, il y a des conflits d'intérêts entre des catégories sociales, et ça reste, ça perdure.
Ceux qui, de toute façon, cherchent le consensus, ont intérêt à trouver le consensus, c'est les dominants. C'est à partir du moment où on entre en conflit ouvert avec eux, ils n'ont pas envie, parce qu'on va remettre en question précisément cette domination. Pourquoi ces gens ont autant alors que les autres ont si peu? Ça peut se résumer exactement de cette façon. Donc eux, idéologiquement, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des classes qui soient en lutte. Parce que si elles sont en lutte, c'est en lutte contre eux. Oui, donc du coup, la charge de consensus, de « ouais, mais tu comprends, c'est compliqué ».
Mais entre ces deux classes, il y a aussi un acteur, enfin des acteurs, qui cherchent, hélas, le consensus, alors qu'à la base, ils ne sont pas faits pour ça, c'est les syndicats.
Oui.
Ah. Voilà.
Donc, il y a beaucoup à dire sur les syndicats.
Ouais, mais en même temps, les syndicats, moi, je pense que c'est important parce qu'ils ont aussi ce pouvoir de traduire en collectif ce qui, les souffrances individuelles, les souffrances. Je pense aux souffrances au travail, par exemple.
Ouais.
C'est-à-dire qu'heureusement que les syndicats existent, quoi, pour,
ouais, mais pour être
les médiateurs. Parce que je pense que ce qui manque actuellement, je pense, dans la société française et dans d'autres sociétés contemporaines, c'est cette traduction par le collectif. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus de médiateurs. Alors ça passe par les syndicats, les partis politiques ou autres, quoi, mais on n'arrive plus à traduire en fait nos souffrances individuelles par du collectif, par de la lutte, par tout un tas d'éléments.
Sûr.
Mais c'est vrai, c'est une caractéristique.
Bien sûr, on a individualisé les tâches et comment on individualise également
les problèmes aussi.
Les problèmes,
au travail.
Bien entendu. Mais la question que posait Manu, c'est est-ce que finalement les syndicats jouent leur rôle ou est-ce qu'ils ont la possibilité de jouer leur rôle aujourd'hui dans la société et par rapport à la puissance de tir qu'il y a en face hein, dans la classe sociale.
Ils sont peut-être un peu vieux.
Un peu vieux.
Ils sont peut-être un peu obsolètes quoi, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir.
Dans les syndicats
Après, il y a... Je pense aussi que maintenant, il y a vachement de mouvements, mais ce sont des mouvements éphémères, sociaux. Mmh. Toi, sur des...
Alors beaucoup qu'il y a... Associatif, d'ailleurs.
Associatif, mais sur des mouvements éphémères. C'est-à-dire que ça va être on va par exemple lutter contre le féminisme, on va lutter contre l'homophobie, pour le féminisme, ouais. Lapsus ou pas?
Il y en a aussi. Il y a des gens qui luttent contre le féminisme, ouais, mais a priori c'est pas des copains.
Non, mais lutter contre l'homophobie, des choses comme ça, mais par contre, il y a de moins en moins de partis politiques ou de corps collectifs qui vont lutter sur les aspects structurels.
Tout à fait, ça n'est
pas structurel. C'est ça, c'est les rapports de force, de conflits, de classe sociale, entre autres, qui sont des rapports structurels qui sont de moins en moins forts.
Pour conclure, il y a justement eu un colloque avec des philosophes et des politiciens, un truc bien enculer les mouches, comme le dirait CSP. Mais il y a un article dans Le Monde qui donne une synthèse de cette réflexion autour de la démocratie que je vous invite à lire.
Ok.
Bien. C'était trop bien.
C'était trop bien. Gwen.
Ah oui, c'est à moi. Gwen. Il n'y a pas de virgule.
Gwen. Non, déjà ils sont polytraumatisés par la mienne, donc.
Alors Gwen, de quoi vas-tu nous parler cette fois-ci?
Ben écoute, bon je commence, j'ai pas de titre.
Allez.
Renaud, alors voilà. Je voudrais ce soir un peu m'insurger parce que bon, j'ai écrit ce papier dimanche soir parce que j'avais entendu des choses et ça m'énervait. Donc je me suis lâché comme ça sur une feuille et je vous dis mon sentiment. Alors je voudrais ce soir m'insurger ou me révolter, même si je dis très calmement. C'est ça qui est bon. Alors contre le paradigme dominant actuellement chez les hommes politiques comme chez les intellectuels, qu'est la philosophie de la complexité? Alors pour ceux qui connaissent la philosophie de la complexité, Edgar Morin qui est un des précurseurs. Alors on nous dit que le monde naturel comme le monde humain forme système. Hein ? Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'analyse systémique, on dit que la somme est plus que les individus réunis, bon, etc. Je vous en passe. En gros, la thèse qui est défendue par la philosophie de la complexité, c'est que tout est interdépendant, il n'y a pas de centre, l'homme n'est que le produit d'un système qui le dépasse, l'homme participe à construire la société comme la société participe également à le construire, etc. La nature forme système, les éléments micro-organiques sont en relation avec les éléments macro-organiques, et blablabla, blablabla. Alors, cette philosophie veut rompre avec la traditionnelle pensée cartésienne, mais, me semble-t-il, elle impose à la pensée contemporaine de nouvelles catégories qui aveuglent, me semble-t-il, les individus sur les facteurs réels qui participent à gouverner nos comportements et notre réflexion, notre entendement. Alors cette philosophie de la complexité, elle est bien entendu reprise en boucle par les mouvements socialistes et les écolos pour justifier de la nécessité de changer le monde.
Juste pour préciser, parce que quand tu parles de ces mouvements qui travaillent la complexité, c'est parce qu'on a quand même quelque chose qui nous tire depuis de nombreuses années vers la simplicité. La simplicité, alors, voire le simplisme.
Ouais, alors moi je suis pour un retour au simplisme, mais je vais t'expliquer pourquoi.
Ah, ça me fait peur ça.
Je ne crois pas que tout est interdépendant et que tout se vaut. Lorsqu'on souhaite faire de la politique, mais je le défends, après c'est discutable, je suis d'accord. Lorsque l'on souhaite faire de la politique, il est nécessaire, me semble-t-il, de hiérarchiser les actions selon leur degré d'urgence. Pour moi, il est plus urgent d'agir sur les facteurs économiques et sociaux plutôt que d'agir sur les facteurs relatifs à l'environnement naturel. Alors je me fous de lutter contre le réchauffement de la planète si à côté on n'agit pas ou peu sur l'éducation ou bien sur l'augmentation des salaires et à l'inverse la diminution du capital. Je reste dans ce sens profondément marxiste. Je pense que les infrastructures économiques sont le facteur principal qui explique l'exploitation et la misère humaine. Alors j'attends donc en priorité que les hommes politiques modifient nos conditions de travail, qu'ils changent le rapport entre le capital et le travail au bénéfice du second, évidemment, du travail, plutôt que d'agir prioritairement sur le réchauffement de la planète. Alors le discours autour de l'environnement naturel est devenu la nouvelle vulgate des dominants de la petite bourgeoisie, dont je fais partie, qui, pour mieux nous endormir et ne pas parler des vrais enjeux qui les remettraient réellement en cause, nous assaille de leçons de morale sur les manières de mieux se nourrir, avec les 5 fruits et légumes qu'il faut bouffer par jour, de mieux se loger, de mieux travailler, de mieux baiser, de mieux vivre spirituellement, etc. etc.
Ça parle à Laurent.
Alors cette vulgate qui est teintée de psychologie, même voire je dirais d'hygiénisme par moment, envahit de plus en plus le monde des loisirs, le monde du travail, le monde du sport, le monde intellectuel, etc. Alors je pense qu'il est temps de revenir aux fondamentaux de lutte contre l'exploitation et de l'exclusion sociale, qui sont le rapport capital-travail.
Et toi tu penses que ça se fait grâce aux hommes politiques?
Entre autres, j'y crois à la politique, j'espère, j'y crois encore.
Mais nous aussi.
Je continue et après on pourra en discuter.
Et on a du mérite.
Alors depuis les années 80, vous savez tous que près de 12% du PIB est passé du travail vers le capital. Alors pour moi c'est honteux et c'est ici que doit s'opérer la lutte politique et non envers ceux qui croient au réchauffement de la planète. Exactement. Et ceux qui n'y croient pas. Alors je me fous d'être pour Alleg ou contre Alleg, je pense que c'est pas là l'urgence et le vrai problème.
Faut même pas en parler.
C'est pas l'urgence politique, je dis pas qu'il faut pas en parler. Pendant que nos hommes politiques, pour se donner bonne conscience et surtout pour ne pas désorganiser le système économique en place, hein, passent de belles conventions pour lutter contre le réchauffement climatique ou bien pour favoriser l'énergie renouvelable, les salaires ne cessent de stagner, voire de baisser, la précarité augmente, les inégalités hommes-femmes perdurent, etc. Alors pour justifier leur action, ces hommes politiques ne cessent de citer leurs références dans le paradigme de la complexité, justement, et de l'effet papillon, etc. Alors, ils utilisent... Je suis pas contre le paradigme de la complexité.
Mais moi, je trouve pas que ces hommes politiques s'inscrivent dans le paradigme de la complexité.
J'en viens.
Attends, tu vas voir.
La philosophie de la complexité et l'écologie qui s'ensuit n'était pas devenue, pour ma part, le nouvel opium du peuple, justement. Les actionnaires et les responsables du CAC 40 utilisent ce discours de la complexité pour expliquer que s'ils délocalisent leur entreprise ou bien s'ils n'augmentent pas les salaires, c'est à cause de la mondialisation et du système de l'économie mondiale. En gros, on n'a pas le choix. Tout est interdépendant. Si en tant que patron de grosse entreprise, je vire des gens, c'est parce que le système me dépasse et que je ne puis faire autrement. Je suis l'instrument d'un système complexe qui me dépasse. Même chose pour les hommes politiques qui disent qu'ils n'ont pas le choix de mettre en œuvre le bouclier fiscal parce qu'autrement les capitaux s'enfuiraient de notre pays à cause de la mondialisation. En gros, ils nous disent que la marge de manœuvre de nos États diminue car les pays sont devenus de plus en plus interdépendants. On ne peut plus agir indépendamment de ce que font nos pays voisins. En gros, bonne justification pour ne pas prendre de décisions politiques contraires à l'idéologie néolibérale ambiante. Alors, pour moi, je suis pour le retour au paradigme de la simplicité, mais ce que je veux dire, c'est que ces provocateurs, retour au paradigme de la simplicité, avec des guillemets, où le facteur prédominant qui organise nos rapports sociaux est le capital, et qu'il faut ainsi changer, pour ma part, les conditions de production économique pour changer nos rapports sociaux et abolir l'exploitation. Alors, prendre un exemple, je ne supporte pas de voir, par exemple, le fric monstre qui est dépensé dans certaines collectivités territoriales, dans des actions favorisant la protection de l'environnement naturel. Hein, faut voir que là, pareil, il y a eu le... Comment ça s'appelle ? Il y a des actions là sur le... j'ai plus le nom. Bref, il y a les collectivités territoriales qui mettent énormément de fric sur la lutte contre l'environnement naturel, qui vont par exemple donner du fric au CLSH, au CLAE...
Agenda 21.
Voilà, Agenda 21, par exemple. Voilà. Alors que ces mêmes collectivités ne font pas d'efforts pour favoriser la mixité sociale dans les quartiers, ou vont verser au compte-gouttes des aides sociales aux chômeurs, vont même les menacer de leur enlever leur allocation s'ils ne font pas d'efforts pour trouver un emploi ou bien pour bien éduquer leurs gosses. En gros, je pense qu'on marche vraiment sur la tête et que la philosophie de la complexité, je le redis bien, je ne suis pas contre la philosophie de la complexité en termes intellectuels,
mais elle est instrumentalisée.
Voilà, je pense qu'elle est de plus en plus instrumentalisée par les hommes politiques et par le patronat, et c'est devenu le paradigme dominant qui peut être exploité à des fins politiques, donc néolibérales.
Mais je ne suis pas d'accord que ce soit le paradigme dominant. Il n'empêche qu'ils instrumentalisent effectivement l'idée de la complexité, mais le paradigme reste, de mon point de vue, le simplisme. Quoi. Quelque chose où on est dans
Les deux ne sont pas incompatibles.
Mais d'ailleurs, ils ne sont pas incompatibles. Absolument.
Nullement même.
Gwen, j'ai l'impression que tu nous as fait une démonstration de ce qu'était le développement durable. Et je t'en remercie. Enfin, je veux dire, de prendre en compte l'environnement, le social, l'économique et d'enlever le capital.
On ne peut pas tout prendre. C'est-à-dire que pour moi, un homme politique, il a un budget économique. D'accord. Il doit faire des choix. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choix, tu les mets où ? Est-ce que tu les mets dans tu vas augmenter la mixité sociale, par exemple, ou tu vas mettre du fric dans l'augmentation des salaires, dans l'aide au chômage, à l'insertion professionnelle, etc. Ou est-ce que tu vas mettre le fric sur l'énergie renouvelable ? C'est des vraies questions de choix. Et je pense que quand on fait de la politique, on peut pas dire ouais tout est interdépendant. Quand j'agis sur l'énergie renouvelable, je sais que ça va provoquer des emplois.
Je comprends ton raisonnement, sauf que on sait très bien que par rapport au changement climatique et pas au réchauffement climatique d'ailleurs, on sait que les premiers qui vont payer les pots cassés, c'est pas les riches.
Ouais, mais alors le mec qui vit dans les banlieues ou dans des zones difficiles, je crois que sa préoccupation première, c'est pas de dire est-ce que ma planète elle réchauffe. Sa préoccupation première, c'est aussi de bouffer, de pouvoir mettre ses gamins en survie.
C'est une condition de survie pour lui.
Les personnes qui s'occupent, qui disent s'occuper de réchauffement climatique, s'en branlent un peu dans la réalité en fait. Il n'y a rien de réel qui est fait contre
changement ça. Climatique, changement.
Va dire ça, va dire ça au Bengali.
Et bon, j'avoue qu'il y a
le
débat. Hein.
Le débat s'emballe, mais il y a Jackie Multiprise, justement, qui est assis sur son tabouret et qui va nous pousser la chansonnette. Et Jackie Multiprise, dit Yann, pour les intimes, va nous chanter quoi, d'ailleurs?
Ah, ben justement, je ne savais pas de quoi on allait parler ce soir.
Oui. Et
je suis assez content.
Moi non plus, je te le dis.
Hein. Mais nous non plus. Décalage en général, et donc je vais trancher dans la transition, je vais faire une berceuse.
Ah, merci. Ah.
Ouais. Un peu de temps de
pas oublier bordel. Que c'est l'été, juste maintenant. Ah, voilà.
À toi.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Daddy's rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. This morning you're gonna rise up singing, then you spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, nothing's gonna harm you, baby. With mama and daddy standing by. Thank you.
Voilà, c'était Jackie Multitrice qui va pas aller bien loin parce que d'ici 5 minutes il reviendra nous en faire une deuxième petite. C'était doux, hein, après cette discussion enflammée. Alors je vous rappelle quand même que.
Enflammé, ça va, c'était courtois.
C'était courtois.
C'était civil, hein, quand même. Hein.
C'est vrai que toi tu peux faire pire.
Ah oui, non, enflammé, non, tu connais rien, là, crois-moi. Hein,
Je vous rappelle quand même que vous êtes sur Radio Mon Pays et que nous faisons cette émission qui s'appelle Pas plus haut que le bord. En direct depuis le bar Le Petit London et que vous pouvez nous retrouver aussi sur radiomonpaïs.fr mais également sur le blog papluhaut.blogspot.com. Alors c'est la dernière de la saison, Manu, c'est la ouais. dernière, mais on se retrouvera à la rentrée en septembre ou octobre, c'est pas encore fixé, et puis on verra, je pense qu'on va entamer une nouvelle saison faite de plein de nouveautés. Enfin, on vise.
Ouais, je pense qu'on vise très nettement l'échelon supérieur, on peut le dire.
Exactement. Tout de même, je tiens à préciser quand même qu'il y a une nouvelle salle qui s'est ouverte il y a peu de temps sur Toulouse et qui s'appelle la Dynamo, rue Amélie, si, rue Amélie à Toulouse, pas très loin de la place Saint-Aubin, hein, finalement. Et que demain, mercredi 23 juin, à 20h30, il y a un groupe qui s'appelle Taras Bulba, et c'est, si je ne m'abuse, une chorale un peu particulière. Alors voilà, à 20h30, Taras Bulba, une fanfare, qu'est-ce que j'ai dit ? Une chorale. Non, parce que j'ai Laurent à côté qui lui, fait partie d'une chorale, effectivement. Donc c'est une fanfare, Taras Bulba.
Si je ne m'écris pas dessus, il est sensible.
Mais je suis très sensible. Et il y a également Charlie Allstar. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, mais il faut y aller, quoi, à la Dynamo, 6 rue Amélie, mercredi 23, et également le samedi 26 juin, il y a deux dates terribles, c'est terrible, il va falloir faire un choix, à la Dynamo, avec
hein.
Mustaflex, MC Wax. DJ Phenom, DJ, moi je suis vachement bon pour vendre les trucs, DJ Tommy Tong.
C'est une torture pour toi.
Ouais, c'est terrible. Mais il y a également, organisé par Brigitte qui nous sert les bières, qui travaille un petit peu au Petit London et puis qui travaille ailleurs, enfin c'est une multicarte Brigitte. Également au bar Les Tilleuls, avenue du Cimetière à Toulouse, il y a It's Been Did.
Dead.
C'est dead. I've been dead. Oui. Moi, je vous l'ai dit, quand on veut me faire vendre de la musique,
il faut que je le lise.
Et c'est du punk rock électro. Et puis, il y a des DJs.
Il y a écrit derrière.
Il y a les Big G's.
C'est I've been dead.
Il va venir, Christophe, il y a les Big G's.
C'est un mélange d'allemand et d'anglais qui.
Alors, peu importe. C'est pour ça que je me suis perdu, figurez-vous.
On revient à l'essentiel là ou quoi ?
Oui. Non, mais c'est important quand même de dire qu'il y a la Dynamo, qu'il y a
Dead. Je suis mort.
Non, ben, c'est pas bon, voilà. Mais il y a Manu qui est bien vivant quand même parmi nous.
Ya.
Manu, qu'est-ce qui t'a inspiré cette semaine ?
Justement, je vais vous parler de musique et de combat et d'Afrique du Sud.
Oui.
Mama Africa. South Africa. Nelson Mandela, African National Congress, ANC, lutte, combat, Soweto, humiliation, viol, meurtre, ségrégation raciale, apartheid, afrikaner. Africa, berceau de l'humanité, dignité. Myriam Makeba, musique, Myriam Makeba. Mama Africa, reine de l'Afrique, reine des reines, la voix africaine du XXe siècle, la voix de la sagesse. Tolérance, une légende humaine. Hier soir, la soirée de clôture de Rio Loco, tournée sur l'Afrique du Sud, était une soirée hommage à Mama Africa, Myriam Makeba, une diva, la diva africaine. J'avoue avoir craché sur le Rio Loco. De belles reprises de volets de crachat sur cet événement controversé sur la forme et sur le fond. J'ai même taclé par derrière les deux jambes en avant quand j'ai appris que cette édition était sur l'Afrique du Sud. Facile, trop facile, le Rio Loco, d'un opportunisme misérable sans scrupules. Profiter du mondial de foot, du premier mondial en terre africaine. Minable, vraiment minable. Je ne m'étends pas sur l'aberration de la planète foot et de ce qu'elle représente. Mais pour une fois, les joueurs de l'équipe de France m'ont fait plaisir. Vraiment plaisir. C'était, paraît-il, un honneur pour eux, dont la plupart sont d'origine africaine, de venir jouer sur les terres de Nelson Mandela. Et puis le degré zéro de l'intelligence, de la dignité, du respect d'hommes et de femmes morts au combat. Mort pour avoir le droit d'être, de respirer sur leur terre, respirer la terre, caresser l'air, brasser la vie. Ils ont survécu sur les braises de l'enfer, et sur ces braises encore chaudes, ces abrutis de joueurs ont chaussé les crampons de la connerie vissée sur leur ego. Hier soir donc, hier soir, des artistes exceptionnels ont rendu hommage à leur mère à tous, Myriam Makeba. Sur scène, Hugh Mazekala, Tandiswa Mazwai, The Mao Tela Queen, Vuzi Malezawa, Zolani Maola. C'est plus difficile à dire que Ribéry, Anelka, etc. Des artistes transpirants de leur art, de leur talent et d'humanité, n'ayant de cesse de rendre grâce à Myriam Makeba, Mama Africa. En 1959, Myriam Makeba réussit à se rendre au Festival de Venise où est projeté le documentaire Comeback Africa, qui fait découvrir les conditions de vie des Noirs dans son pays. Passeport supprimé, interdiction de revenir en Afrique du Sud, même pour l'enterrement de sa mère. Elle ne retournera que 31 ans plus tard lors de la libération de Nelson Mandela en 1990. Trois décennies d'exil, de combat, de scène, de gloire et reconnaissance, mais surtout d'hymne à la paix et à la tolérance. Myriam Makeba, cette voix, cette beauté physique et grandeur d'âme, Mama Africa, mère d'un continent. Elle lutta jusqu'au bout et ne refusa jamais des concerts de soutien à une cause, Mama Africa. Elle est morte en novembre 2008 comme une reine et une combattante sur scène. Elle n'a pas su refuser, malgré ses 78 ans, un concert de soutien au journaliste italien Roberto Saviano, qui dans son livre Gomorra raconte et dénonce la Camorra et son empire. Roberto Saviano est depuis menacé de mort. Elle est montée sur scène, drapée de sa légende et d'humilité. Mama Africa est morte d'une crise cardiaque quelques minutes après son concert. Alors hier soir, écoutant sa musique, des frissons dansaient sur moi, ses voix puissantes, sensuelles, animales, ses yeux, ses corps qui irradiaient la nuit m'ont transporté entre ici et ailleurs, ce quelque part où seule la musique, habitée par des combattants et des combattantes au cœur pur, vous transporte. Belle ironie, alors où j'écris cette chronique, l'Afrique du Sud joue contre l'équipe de France des égaux. Et j'imagine sur un grand écran du Rio Loco la retransmission du match. Des enceintes jaillirait la voix de Mama Africa, Myriam Makeba, mère d'un continent. Elle danserait sur le terrain à faire perdre la tête de ces sales gosses millionnaires ignorants et arrogants. Danse, Mama, que danse ton sourire du haut de ce que tu es. Belle, viva Africa, viva South Africa.
Bravo Manu. Voilà, un bel hommage.
T'as couché avec elle ou quoi?
Non, mais trop.
Tu casses l'ambiance, toi.
J'étais trop jeune.
Ah là là, mais c'est un vrai Laurent, un peu de poésie là, c'est pas
non,
possible.
Mais attends, c'est... Faut que tu sais que Laurent est la poésie. Bon.
Et au fait,
non,
l'équipe de France, elle a gagné ou?
Non, ils ont perdu. Non,
elle a perdu.
Arrête. Ah merde. T'es fou.
Ah non, mais
malheureux.
Je sais pas, moi.
C'est pour dire qu'on est en direct.
Hein?
C'est pour dire qu'on est en direct, qu'on sait quand on parle, qu'on est concerné. Qu'on est à fond dans la
scène. Même si on n'est pas en direct, on dit qu'ils ont perdu.
Ça marche quand même. Ça marche quand même.
Non, c'est bon, ils ont perdu. T'es sûr?
Ouais. Allez, Jackie, multiprise. Une dernière chanson avant que Laurent
il
fasse
se déchaîne
sa...
Lorenzo.
Ça va, sa dernière chronique de la saison.
Oh non.
Oh. Jackie multiprise. Alors ça quand même, hein, ça c'est un sacré nom de scène.
Tu veux savoir ce que ça veut dire?
Oui.
Bah multiprise parce que je fais surtout des reprises. Et Jackie parce que je m'y crois à fond, quoi.
C'est trop pertinent.
Amis, que je vous raconte la vie triste et pleine de honte d'un horrible mécréant qui mourut voici 100 ans. Doué d'une nature immonde, du jour où il vint au monde, il souffrit de priapisme, on lui fit un synapisme. Pour soulager ses ardeurs, et ce fut peine perdue, car poussé par la douleur, sous le flot de ses humeurs, il noya dans le quart d'heure la médecine incongrue. Âgé de 5 ans à peine, une culotte de chêne, cul d'un bois insuffisant, à lui rabattre le gland. On essaya bien des choses, depuis les bains d'eau de rose, jusqu'à du piment moulu, qui lui violassait le cul. Et malgré ses tentatives, il arquait tel un géant, et d'une autre à l'autre rive, clients qui m'aiment me suivent. Il dressait sur les eaux vives son bon phalon rougeoyant. À 15 ans, jour de fête, il attacha sa braguette avec un câble d'acier et s'en fut au bal blêmé. Sitôt entré dans la place, il empoignait une putasse et commença tout de go à trémousser un tango. Au bout de trois pas, soudain, il entend craquer le câble et l'engin s'est détendant, anéanti dans l'instant, 17 filles et 5 enfants qui trépassent sous les tables. Si le récit de sa vie n'est pétri que d'infamie, la mort éclaire d'un jour sombre, la mort d'Alphonse et son ombre, désespérant de trouver un endroit où se fourrer, il s'engagea pour se battre dans l'armée du grand de l'âtre. Excusez-moi. C'est là qu'il périt un jour, victime d'un sort funeste, car voulant faire l'amour avec un obusier lourd, le coup partit triste et sourd, comme il commençait les gestes. Je loupe un peu la fin, désolé.
C'est bien, merci. Dis-moi, Jackie Multiprise, est-ce qu'on peut te voir? Est-ce que tu te produis à des endroits des fois? Est-ce que
tu as des dates? Je commence, alors j'ai pas trop de contacts, je suis tout neuf.
Ouais, mais tu sais, ici, au Petit London déjà, tu vas avoir plein de contacts, et puis ensuite avec Radio Mon Pays, qui écoute internationalement.
J'ai réussi à faire
un... Attends un peu, quoi.
J'ai réussi à faire...
Il y a le zik qui s'échouit, quoi.
Laissez-le parler.
J'ai réussi à faire un MySpace, en fait, comme le nom n'était pas pris. Oui. Donc c'était cool.
Oui, c'est sûr. Jackie Multiprise. Merci en tout cas.
Voilà.
Merci à toi, bravo. Eh oui, c'était Jackie Multiprise. Nous, tous les 15 jours ici, vous le savez. Hein,
Nous avons un autre spécialiste des multiprises, en l'occurrence Laurent.
Ah là là, mais tu me fais des enchaînements incroyables.
Ouais, je sais, je suis comme ça.
Mais d'abord, ça.
Pas plus haut que le bord.
Eh oui, pas plus haut que le bord, vous le savez. Si vous nous écoutez tous les 15 jours à Pas plus haut que le bord, eh bien, en général, on termine l'émission avec la chronique de Lorenzo, notre Lorenzo national, qui a bien travaillé, visiblement.
Parfois, tu sais, Christophe,
oui.
Il est des décisions innocentes que l'on prend, dont on ne mesure pas suffisamment les conséquences. Samedi matin, j'ai dit à mon fils, s'il te plaît, va chercher des croissants et s'il te reste une pièce, tu me prends l'équipe, histoire de voir où on en était de plus belle la vie fait du football. Ribéry, un ancien Marseillais, caïd de la prostitution, qui veut pas faire des passes en joueur parce qu'il est homosexuel, des coups de boule, des traîtres, des millionnaires arrogants, des coups de théâtre à tous les étages. Si c'est pas plus belle la vie, c'est super bien imité quand même. Donc à son retour d'acheter des croissants et le journal, mon fils me dit... Papa, ça veut dire quoi, se faire enculer? Fort surpris par ce langage outrancier émanant de ma progéniture que j'ai toujours éduquée avec le plus grand soin dans un vocabulaire toujours viril. Dans sa curiosité lubrique et atavique qui ne laisse aucune place au doute quant à la paternité de mon fils, il m'interpelle à nouveau. Et une pute, c'est quoi papa? Oulala, monsieur, je dis à 9 ans, il veut déjà me piquer ma place à la radio. Bon. Et là, il me donne l'équipe, et complètement stupéfait, je lis le titre de la une, aussi gras et gros comme que mon perchoir à perroquet, et j'y découvre cette phrase hallucinante dans le plus gros tirage de la presse nationale: va te faire enculer, sale fils de pute, je l'ai amené, il est là. Du jamais vu dans la vulgarité depuis le 21 avril 2002. Alors voilà, maintenant va expliquer ça à ton fils, toi, démerde-toi. Alors au début, je voulais lui expliquer que enculé, c'était un mot inventé.
C'est dur le métier.
C'était un mot inventé par les grands, que pour les grands, synonyme entre autres de président de la République ou ministre de droite, parce qu'il faut être simple, et que pute désignait des gens prêts à tout pour se faire un max de thunes, ce qui en somme revenait un peu au même. Ouais. Enculé. C'est alors que je me suis dit que je ne devais pas fuir et profiter de l'occasion de cette pleine période d'examen, de bac et autres brevets pour parce que pour revoir les fondamentaux scolaires à partir de cette phrase. En quelque sorte, je vais faire mes annales pour rester en cohérence avec le propos. Les annales du bac. Donc alors par exemple, pour les littéraires, analysons cette phrase.
Chaud, il est lancé, c'est parti.
Analysons cette phrase fume, pour là. Les littéraires. Il s'agit là d'une phrase injonctive qui exprime un ordre, un conseil, type de phrase caractérisée également par sa terminaison en point d'exclamation. Je rappelle les autres types de phrases. La phrase déclarative qui transmet une information et qui donnerait, dans ce cas-là, tu es un fils de pute, il te serait sans doute agréable que tu te fasses enculer. La phrase interrogative, elle, permet de poser une question. Exemple, sais-tu qu'en tant que fils de pute et avec ta carte de fidélité, tu peux aller te faire enculer pour pas cher ? Enfin, la phrase exclamative qui traduit les sentiments ou des émotions de celui qui s'exprime donnerait, tu vas aller te faire enculer parce que tu es un fils de pute. Dans la phrase de notre fouteux, on note toutefois une erreur. Enculé, ER. Alors, l'usage de l'infinitif correct ici par un footballeur professionnel est suspect. Et l'absence du participe passé, caractérisé par une terminaison en E, accent aigu, pour les verbes du premier groupe, peut nous faire penser qu'effectivement Nicolas Anelka n'a pas écrit cette phrase. Maintenant, si on prend cet angle sous l'angle de la poésie, on peut noter que par un artifice certes peu recommandable, Anelka nous gratifie là d'un alexandrin. Oh. Va te faire enculer, césure, sale fils de pute. De suite, on voit qu'on a affaire à un calibre de la poésie contemporaine. Témoin ce test dans lequel on remplacerait cette phrase dans n'importe quelle œuvre classique sans que cela ne choque. Par exemple, prenez ce poème de Victor Hugo. On n'insultait jamais une femme qui tombe. Comme un bout d'une branche, on voit étinceler une goutte de pluie où le ciel vient briller, qu'on secoue avec l'arbre et qui tremble et qui lutte, va te faire enculer, sale fils de pute. Alors parlons maintenant de SVT, science et vie de la Terre. À mon époque, on appelait ça biologie et on regardait des films sur la reproduction qui donnaient plus envie de rester un adolescent boutonneux frustré que de satisfaire ses érections encombrantes. Alors, va te faire enculer sous-entend un rapport sexuel, ça c'est de point de vue SVT, donc, consistant à une pénétration de l'anus du ou de la partenaire, généralement à l'aide d'un pénis ou autre objet ou légumes s'y rapprochant. L'anus est l'orifice par lequel le rectum abouche à l'extérieur du corps. Il est doté de sphincter lui permettant en temps normal de rester fermé et de garder des matières fécales à l'intérieur du rectum. Il faut savoir qu'une enculade, telle que le stipule M. Anelka, peut s'avérer très agréable pour les hommes en raison de la stimulation de la prostate engendrée par la procédure, déclenchant même l'orgasme chez un tiers des personnes qui pratiquent ce genre de stimulation, n'en déplaise à ce joueur de foot qui sans doute ne voulait pas tant de bien à son entraîneur. Pour ceux qui font un peu d'économie, on notera que Proudhon, à qui l'on doit la fameuse phrase « la propriété c'est du vol », critiquait déjà la possession de tout bien et par extension de toute personne, ce qui pourrait nous amener à déduire que finalement louer une femme pour quelques loyaux et anneaux au service sans en être propriétaire est préférable au mariage. Ça c'est pour la partie économie. Un petit cours de langue maintenant, alors qu'en anglais on comprendra facilement « fuck you son of the bitch », hein, ça se traduit comme ça. Hein, en ancien en allemand on dira plutôt « juden raus Hitler ». Plus glamour façon Zucchero, l'italien nous chante Vaffanculo figlio di buona donna.
Hein, ah ouais.
Sans oublier pour la dame du métro toulousain la traduction très approximative d'un dialecte personnel occitan, il les peut avoir greu tatarani des bordels. Sans souverain république. Alors au rayon de l'histoire, on va parler histoire. Cette phrase n'est pas sans rappeler si on cherche bien le fameux titre de l'Aurore qui fut aussi scandale à l'époque, un certain 13 janvier 1898, soit un siècle pile avant le sacre mondial de Zizou et compagnie, c'est un signe.
Ah oui.
L'idée est la même, mais exprimée différemment. Autre temps, autre mœurs. On voit mal Zola défendre Dreyfus en commençant son papier par « Allez vous faire enculer, sale fils de pute d'antisémite », tu vois. Tout comme il lui paraît ridicule d'entendre Anelka dire à Domenech, « J'accuse ».
C'est un peu court.
Ouais, c'est moyen. Alors il est curieux de voir aussi que va te faire enculer est évoqué, certes de manière plus subliminale, en physique, par le théorème d'Archimède, que voici texto et j'ai rien changé, je vous le jure. Alors va te faire enculer par le théorème d'Archimède, ça donne tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut. Voilà, j'ai rien. C'est vraiment le théorème d'Archimède.
Ça colle.
Alors, d'un point de vue des mathématiques, voyons cela comme une équation. Alors, si va te faire enculer égale sale fils de pute, alors on peut considérer que va te faire sur de pute est égal à sale divisé par enculé. Pour résoudre l'équation, il faut ramener les termes au même dénominateur commun, soit va te faire, alors attends, va te faire sur deux putes fois deux enculés égale sale, sale sur deux enculés fois deux putes. Si on y rajoute l'hypoténuse d'une tête au carré, on devrait arriver à un résultat plus ou moins égal à 11 enculés sur un terrain de foot. Alors quand même, pour votre bac, un petit conseil, évitez d'employer de tels termes. Je vous conseille plutôt d'utiliser d'autres tournures moins brutes. Exemple, va te faire ramoner la turbine à chocolat, ça le fils de polisseuse d'asphalte. Ou bien, va te faire encaisser du rond de serviette, ça le fils de marchand d'amour. Il faut enrichir son vocabulaire, messieurs, et je vous donne mon tuyau. Procurez-vous le tout nouveau dictionnaire des mots du sexe aux éditions Ballant, que j'ai là. 913 passes de bonheur linguistique que la semaine dernière, une personne qui se trouve autour de cette table m'a offert, oui, messieurs. Et je le remercie encore, lui et son amoureuse, pour ce livre qui m'inspirera de nouvelles chroniques intelligentes. Parce que nous, un pas plus haut, on est qualifiés pour le prochain tour et on sera là la semaine prochaine avec la même niaque, la même envie de mouiller notre maillot et celui des auditrices aussi. Et avec pour seul sponsor la Bergen Pils que nous sert Yannick. Parce que nous, on est un demi, super qualifié et motivé pour les demi. Et tout ce joli monde du football professionnel, les journalistes, les dirigeants, les joueurs qui nous gavent depuis trop longtemps de débats essentiels, de mépris arrogants, de conneries, d'infos qu'on s'en fout, j'aurais toujours envie de leur dire mais allez vous faire enculer, sale orphelin de but. Bon bac et bonnes vacances.
Merci, bravo, ouais, bravo. Et il a mené son dictionnaire des mots du sexe.
Un ouvrage indispensable.
Ah oui, mais alors là
haute volée.
Là, il me tarde la saison prochaine, parce qu'à mon avis, il va être
plus... La saison prochaine, il l'a tout lu, il a épluché, là, ça va envoyer jamais.
C'est CSP qui m'a offert ça.
CSP et sa compagne.
Et c'est vrai qu'il était bien inspiré quand même, hein. Dictionnaire des mots du sexe.
Je sais pas pourquoi.
Écoute, moi non plus.
Dès qu'on l'a vu, on a pensé à toi, mais alors tout de suite. Bon, c'est ça, c'est pour lui.
Et sous ta douche, tu penses à moi aussi comme ça
On en parlera après.
D'accord. Ouais.
On en parlera après. Mais mes chers amis, vous savez que c'est la dernière de la saison.
Ah non, tais-toi.
On va attendre au moins deux mois et demi avant de reprendre cette émission.
Nous nous reposerons.
Ouais.
C'est dur, hein.
Nous ferons des choses de nos corps et toutes ces sortes de choses et nous reviendrons plus en forme encore.
Oui, oui, Manu. Et
plus méchant.
Et nous pouvons quand même lancer à la cantonade que ici nous accueillons d'autres chroniqueurs. Hein. Il n'y a pas que CSP, que Lorenzo.
Je vous arrête tout de suite. Il y a CSP, d'accord. Et éventuellement, il y en a d'autres autour. D'accord.
Putain. Oui.
Moi, l'année prochaine, je serai là, ça c'est sûr.
Ça y est, il fait son footballeur, quoi.
En tout cas,
on va te faire enculer, ça, fils de pute. Ah, ça rend, hein, comme ça. Hein.
Maintenant, on a le droit de dire. C'est quoi.
En tout cas, mes amis, moi, je tiens à vous remercier pour cette saison. Et je tiens à remercier tout particulièrement Christelle, qui nous fait la technique.
Et merci, Christophe. Ouais.
Non, je tiens à remercier tout particulièrement Christophe.
Et oui,
parce que c'est Christophe, lui qui organise tout, quand même.
Merci aussi à Yannick qui nous héberge dans son bar, le petit London. Et vous pouvez aussi vous...
Il nous héberge, il nous abreuve.
Merci Clémence autour de la table, merci Laurent, merci Manu, merci CSP, merci Gwen, merci Brigitte derrière le comptoir, merci Gilou aussi.
Merci les gens dans la salle.
Les petits plats et merci le public. Merci également à Jackie Multiplice pour ses chansons. À bientôt, à la saison prochaine. Salut.